Encore une petite question. Comment Luther peut-il dire que l'intelligence est touchée dans son essence même? Ce serait trop long de bien expliquer certains textes de saint Augustin qui montrent les conséquences du péché originel et qui font que notre nature est corrompue. Alors, vous voyez, c'est là toute la difficulté. L'Écriture ne précise pas. Et la théologie essaie de préciser. La nature est corrompue. Nous sommes tout entiers dans le péché. Et c'est vrai, on est tout entiers dans le péché. Et la nature est corrompue. Alors, on a essayé de préciser ce que pouvait représenter l'état de nature et la nature. C'est déjà pas si commode que ça à bien distinguer. Ceux qui sont habitués un peu au langage de saint Thomas comprennent la différence entre l'état de nature et la nature. La nature est toujours un peu abstraite. L'état de nature, c'est concrètement ce que nous sommes. Nous sommes des êtres individués, existants, complexes. C'est ça l'état de nature. L'état de nature correspond à l'exercice que nous faisons. Je vous parle maintenant. C'est quelque chose de concret. Et ça relève de l'état de nature dans lequel je suis. Si je suis malade, ma voix n'aura pas la même précision que si je suis en pleine santé. Être malade ou être en pleine santé, c'est un état. Être tout petit, on vient de naître, on est dans un berceau, ou on est contraire, en pleine force de l'âge, ce sont des états différents. C'est toujours la même nature. Le petit enfant qui vient de naître, il a la nature humaine. Il a son chiffre biologique qui va rester toute sa vie. Mais évidemment, il a des étapes différentes. Oui, on peut arriver à préciser la nature et l'état de nature. Mais il ne faut pas oublier que de fait, si on refuse l'analyse philosophique et qu'on regarde uniquement le point de vue descriptif, à ce moment-là, on ne distingue plus, on ne peut plus distinguer. Alors, ce serait trop long hein, de bien préciser comment on est arrivé à ce point de vue-là. Je crois qu'il ne faut jamais oublier Luther, au point de départ, il a un sens mystique très fort. Et il est agacé de toutes les distinctions scolastiques. Et à cette époque, la scolastique n'était pas très fameuse. Il y avait toute l'influence d'Occam. Très en opposition vis-à-vis de la logique et vis-à-vis d'Occam. Et il veut revenir à l'écriture. En soi, c'est excellent de revenir à l'écriture. Toute la théologie doit nous faire retourner à l'écriture. Le retour à l'écriture et lire l'écriture directement, mais c'est très bon. C'est pas mauvais. On nous dira toujours, mais interprétez l'écriture selon toute la grande tradition des pères de l'Église. Interprétez l'écriture selon l'enseignement actuel de l'Église. Étant donné que l'écriture, elle est portée dans le cœur des saints. Et la tradition, C'est la parole de Dieu portée dans le cœur des saints. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ça la tradition. La tradition, elle ne se termine pas à Pie XII. La tradition, elle se termine à notre cœur. Nous faisons partie de la tradition. Si nous sommes saints, avec une auréole, vous voyez dans quel sens je veux le dire, alors à ce moment-là, tout ce que vous avez écrit sera très important. Et vos écrits prendront une importance particulière. C'est très bien. Et ça fait partie de façon plus nette et plus officielle de la tradition d'Église. Mais une sainte mère de famille, une sainte épouse, un saint mari, fait partie de la tradition de l'Église. Un saint moine, jamais canonisé. Vous savez que les chartreux ne veulent pas que leurs moines soient canonisés. Ils ne veulent pas. S'il y a des chartreux canonisés, ce n'est pas à cause des chartreux, c'est à cause des évêques. Parce que le moine qui habite à tel diocèse, s'il est mort en odeur de sainteté, comme on dit, c'est-à-dire vraiment comme un très saint moine, et qu'il y a des miracles, les chartreux se tairont. Vous savez, cette histoire des chartreux, ça aussi c'est authentique, il faut le dire. C'est quand même intéressant de voir ça. Vous avez partie de l'Église et de la tradition de l'Église. On m'avait raconté toujours une histoire qui me paraissait vraiment très extraordinaire et un peu exagérée. Et la première fois que j'étais à la Grande Chartreuse, des gens fermaient les portes. Hein. Je ne peux plus pénétrer dans la Grande Chartreuse maintenant. Moi, j'y pénètre pour enseigner de la philosophie. C'est bien, ça. Hein. Au moins, je vois que la philosophie, ça sert à quelque chose. C'est intéressant quand même de faire un peu de philosophie au Chartreux. C'est fermé, fermé complètement. Après le concile, il y a des évêques du concile qui sont venus frapper à la porte de la Grande Chartreuse. Et le père prieur a dit, qu'est-ce qu'il y a là ? Il a dit, 11 évêques du concile qui viennent de l'Amérique latine. Ils viennent demander s'ils peuvent entrer. Le père prieur n'a pas changé, il restait à sa table, dans sa cellule, dit « Dites-leur qu'on ne visite pas la Chartreuse. » Et il va apporter, heureusement qu'il n'avait pas ouvert la porte, simplement les guichets, on dit qu'on ne visite pas la Chartreuse. Et ils sont repartis. On ne visite pas la Chartreuse. Certains disent quand même, si le pape venait, on dirait pas la Chartreuse. C'est quelque chose d'extraordinaire, la Chartreuse, pour ça. Alors là, je savais que c'était très difficile. J'ai quand même frappé. J'ai dit que je connaissais très bien le prieur de la Chartreuse de la Val-Sainte. Ça me mettait un galon. On m'a laissé entrer. Un dominicain. Celui qui est marçu, c'était celui qui était pris dans les archives. Il faisait des études historiques sur la Grande Chartreuse. Alors on a tout visité. Maintenant je la visite seul. On me laisse dedans. Je peux la visiter seul. C'est impressionnant le cloître de la Grande Chartreuse. Il a 100 mètres. C'est beau. C'est extraordinaire. Alors, voyant le cloître, c'est le cimetière. Alors je dis à ce moment-là, écoutez mon père, vous qui êtes un archiviste de la communauté, vous allez me dire si telle histoire est juste. On m'a raconté ça sur la Chartreuse. Alors il s'est mis à rire, dit, oh oui, on en raconte. Plus on se tait, plus il y a des légendes. Et c'est un peu vrai, du reste. Parce que le silence des Chartreuses, ça permet à l'imagination de battre la campagne. Alors on m'a raconté ceci. Et c'était mon vieil oncle, le père de Haut, qui me l'avait raconté. En disant, je ne sais pas si c'est tout à fait authentique. Vous savez bien comment on enterre les chartreux. On les enterre avec leur coule de chartreux, mais il n'y a pas évidemment de cercueil. On les enterre à même la terre. C'est plus simple. C'est une vieille tradition des moines. Très bonne tradition, c'est très bien. Alors, et on enterre successivement dans le cimetière, quand il a 100 mètres de long. Vous comprenez que ça représente quand même un petit trajet, n'est-ce pas ? Aller-retour, hein, ça fait 200 mètres. 200 mètres, ça représente quand même un petit moment. Alors le frère creusait, parce qu'il y avait un père qui venait de mourir, creusait la tombe. Puis en creusant, un jet de sang. Il regarde de près et voit qu'en effet, la tunique est restée. Elle est là. Elle n'est pas plus loin. Il court à toute vitesse auprès du père prieur. Dans l'émotion, vous voyez. Elle a dit, voilà père, je suis en train de creuser la tombe pour le frère untel. Et puis voilà ce qui est arrivé. Le père prieur dit, mes frères, il y a de la place à côté. Alors je raconte ça. Je dis, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est une vérité? Alors j'ai vu à ce moment-là cet historien se redresser et me regarder. Père, je peux vous certifier que c'est authentique. C'est ici que ça s'est passé. Du temps de telle prière. Et vous voyez bien pourquoi. Dans les constitutions des chartreux, il est dit que le prieur général jamais n'introduira une cause. Alors s'il est témoin de ce miracle du corps gardé intégralement, bien obligé d'en avertir Rome, d'en avertir la communauté. Ça nous semble complètement, hein, dans notre mentalité d'aujourd'hui, vous diriez ça, hein, à un homme de la télévision. C'est la folie, quoi, c'est la folie, non. C'est mourir sans gloire. Ce que je crois être le testament de Marie dans le mystère de l'Assomption. Elle ne le dit pas, hein, c'est moi qui le déduis. Offrir sa vie jusqu'au bout sans du tout se glorifier. Donc mourir sans gloire pour être tout entier pour Dieu. C'est ça la signification. Hein. Je traduis, j'en fais l'herméneutique en tant que théologien. Parce que la première fois qu'on m'a raconté ça, je me suis dit, mais c'est un vrai semblable quand même. Et si on pousse jusqu'au bout ce que représente la chartreuse, on peut aller, hein, autour de la chartreuse, on peut avoir la vision des toits de la chartreuse. C'est toujours très beau, surtout en hiver, c'est magnifique. C'est un lieu extraordinaire. On comprend qu'il faut une terre absolument consacrée à Dieu, dans le silence le plus total qui soit. Quand on entre dans la grande chartreuse, on a un silence. Un silence qui vous prend, qui vous saisit. Le silence de Dieu, voyez, le silence de l'amour. C'est pas un silence pesant, hein. C'est un silence d'amour. Mais c'est un silence. Et dans le monde d'aujourd'hui, si on ne veut pas être envahi par la télévision, on fait être farouche. Autrement, immédiatement, on est la pâture. C'est très difficile pour les ordres apostoliques. Pour un ordre purement contemplatif, on peut. Mais pour un ordre apostolique, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on ne peut pas se couper complètement. Et pourtant, il faut garder le silence. Il faut maintenir des zones de silence. Alors, vous voyez, face à Luther, qui revenant à l'écriture, la nature est corrompue. Je suis totalement dans le péché. Dit, tout ce qui provient de l'homme est mauvais. Seule la grâce sauve. Ce qui est tout à fait juste. Hein. Seule la grâce sauve. Nous disons la même chose. Hein. Ça, c'est la tradition chrétienne. Seule la grâce sauve. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est tout à fait juste. Jésus le dit. Donc, sans la grâce du Christ, on ne peut rien faire. Mais, cependant, alors là, je prends toute la grande tradition des pères de l'Église. J'ai fait l'enquête, ça m'intéressait au point de vue philosophique. Presque tous les pères de l'Église, presque tous les pères de l'Église, ont affirmé que l'intelligence humaine pouvait, par elle-même, découvrir l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Mais que nous ne pouvons pas connaître ce qu'est Dieu. On affirme qu'il existe nécessairement un être premier que nous appelons Dieu. Ça, c'est la capacité de l'intelligence. Et c'est à partir de là que l'Église a précisé, lentement, que l'intelligence humaine n'était pas touchée par le péché, mais la volonté humaine est touchée par le péché. Parce que la volonté, c'est la volonté du sujet. Oui, notre volonté est toujours concrète. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose d'une façon abstraite. C'est impossible. La volonté est toujours concrète. Comme l'amour. Vous savez bien la parole de Molière, hein ? Celui qui prétend aimer le genre humain n'aime personne. On aime des hommes. On aime des individus. On n'aime pas le genre humain. Non, pas possible. On n'aime pas l'universel. On n'aime pas l'abstrait. Le bien qui est objet d'amour, le bien qui nous attire, est toujours concret. Le bien est toujours existentiel. On ne peut pas l'abstraire, le bien. On peut essayer de connaître ce que c'est que le bien. Et donc on peut, philosophiquement, essayer de préciser qu'est-ce que c'est que le bien. Mais ça, c'est le philosophe. L'homme regarde toujours un bien concret. Et le bien concret, c'est une personne. C'est une personne qu'on aime. C'est une personne qu'on contemple. On ne contemple pas un principe. On contemple une personne, toujours. Et on aime une personne. C'est très important de se le rappeler, ça. Dieu, c'est une personne qu'on aime. On ne peut pas aimer de façon abstraite. Tandis que l'intelligence, elle a un mode abstrait. L'intelligence fabrique l'universel. C'est la seule chose qu'elle fabrique. L'universel. Elle connaît d'une manière universelle. Je peux connaître l'animal en soi. Je peux connaître le chat, l'homme. Point de vue connaissance. Et parce que la connaissance a un mode abstrait, L'intelligence peut garder son orientation propre vers la vérité et ne pas être atteinte par les conséquences du péché. Tandis que la volonté, comme elle s'exerce toujours comme la volonté de l'homme et de l'homme concret, je veux vouloir. C'est l'homme concret qui veut, c'est l'homme concret qui aime. On aime avec tout ce qu'on est. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je connais intellectuellement avec tout ce que je suis. C'est la très grosse différence entre la connaissance et l'amour. L'amour saisit l'homme dans son individualité, dans ce qu'il a de plus personnel. L'intelligence a un mode abstrait. Il y a des niveaux de connaissance. Tandis que l'amour le plus spirituel qui soit, a toujours une répercussion sensible. Toujours. Ce que j'aime avec tout ce que je suis. Mais l'amour le plus spirituel tend à être toujours plus spirituel. C'est-à-dire davantage aimer la personne dans ce qu'elle a de plus personnel. Mais cet amour spirituel assume l'amour passionnel, l'amour sensible, et même assume l'instinct. Vous voyez, l'exercice de l'amour n'implique aucune abstraction. Et c'est pour ça que les conséquences du péché originel touchent mon exercice volontaire. La conséquence du péché, c'est que j'ai beaucoup moins de volonté que s'il n'y avait pas le péché. Nous devons éduquer, rééduquer notre volonté. Et nous savons très bien ça. Combien c'est difficile d'avoir une volonté tenace, forte. Peu importe que tout le monde dégringole à côté de moi, je continue ma route. C'est très rare, hein, des volontés très déterminées. Ça, c'est ceux qui peuvent entraîner les autres. Tandis qu'au contraire, la plupart du temps, on se laisse entraîner. Et à côté de nous, il y a quelqu'un qui s'en va dans un autre sens. On se dit, après tout, il faut peut-être faire ça. C'est contagieux. Parce que justement, la volonté est très marquée, notre volonté, est très marquée par le péché. Il faut la grâce pour transformer notre volonté. Et que notre volonté ait suffisamment de force pour vouloir aimer. Et là, il y a un problème, c'est un problème énorme, hein, le problème de la grâce. Je ne veux pas entrer dedans, mais simplement je souligne ça, parce que je crois que c'est important. Vous voyez, si notre volonté était corrompue par le péché, il n'y aurait pas de science. Parce que la science, les sciences positives, la science mathématique, est-ce que la science mathématique a été touchée à cause du péché? Non. Les mathématiques demeurent les mêmes. Si Adam a fait des mathématiques, si Adam, parce qu'il ne reste pas grand-chose, les mathématiques restent les mêmes. La philosophie reste la même. Mon intelligence est la même. La réalité, dans sa nature, reste la même. Mais elle est corrompue dans son état particulier. Alors on me demande, encore, je m'excuse, quelques lumières sur les termes anthroposophie et théosophie. Et la Sophie, Sophia, la sagesse. Donc la sagesse à l'égard de Dieu, la sagesse à l'égard de l'homme. Mais attention, hein, ces termes ont pris des modalités assez différentes. Quand on parle de théosophie, on parle d'une connaissance de Dieu qui très souvent devient comme une gnose. Alors, il faudra entrer dans tout le problème de la gnose. Je ne le fais pas. Quand on parle d'anthroposophie, on parle souvent d'une sagesse sur l'homme qui implique une gnose. La gnose, c'est une connaissance qui implique des initiations. C'est pour ça que c'est une connaissance qui reste toujours fermée pour une secte, pour une communauté. L'Église se dit Église, l'Église chrétienne. Donc là, je prends l'Église chrétienne dans toute son étendue. L'Église chrétienne se dit toujours catholique universelle, puisque c'est ça que ça veut dire. Donc, sans cette particularité que certains membres sont initiés, toutes mes connaissances théologiques, je peux vous les communiquer. Toute ma vie profonde, intérieure, je peux, d'une certaine manière, parce que les expériences personnelles, on ne peut jamais les communiquer. C'est vrai. L'expérience mystique la plus élevée, selon Thomas d'Aquin, et il connaît quand même un peu, je crois que c'est un théosophe de premier ordre, c'est-à-dire quelqu'un qui a une connaissance de Dieu qui est très forte. Pour Thomas d'Aquin, la connaissance mystique la plus élevée, c'est-à-dire Abba Pater, c'est-à-dire Père, c'est de vivre de cette filiation divine à l'égard de Dieu. C'est de vivre du secret le plus intime, le plus personnel du Christ, de Jésus, son lien avec le Père. Et ceci, nous pouvons le vivre grâce au don de sagesse. Or, le don de sagesse, nous l'avons tous. Dès qu'on est en état de grâce, on a le don de sagesse. On a les 7 dons du Saint-Esprit. Mais on ne les exerce pas beaucoup. Si nous voulons exercer le don de sagesse au plus intime de notre conscience de chrétien, nous disons Père, Abba Pater. C'est très beau, tu vois. Donc quand nous disons notre Père, nous exprimons ce qu'il y a de plus intime dans notre connaissance mystique. Alors nous ne le vivons pas toujours, hein, parce que si on le vivait avec une très grande intensité, on gardera le silence. On ne le vit pas toujours, c'est bien évident. Mais c'est un lien. On sait que nous pouvons demeurer au plus intime du Père. Notre place de fils bien-aimé du Père, elle est là. Il n'y a pas de distance entre Dieu et nous. Il ne faut pas l'oublier. C'est l'imagination qui construit des distances. Entre Dieu et nous, il n'y a pas de distance. Même au point de vue purement humain. Puisque Dieu est le Créateur. Donc nous sommes portés par lui. Et c'est cette présence d'immensité qui fait que Dieu est plus présent à nous-mêmes que nous sommes présents à nous-mêmes. Dieu est plus présent à nous que nous sommes présents à nous-mêmes. Et dans la présence de grâce, le Père nous attire à lui et réalise en nous un amour d'une très grande intimité que nous pouvons expérimenter grâce au don de sagesse. Si nous en avons le désir, l'Esprit Saint nous le donne. Il nous le donne si nous en avons le désir. Nous devons lui demander d'avoir cette expérience intérieure qui nous maintient dans la ligne droite. Je crois qu'aujourd'hui, quand on vit dans un monde très matérialisé, très laïcisé, on ne peut vraiment rester chrétien que si on a une expérience très intérieure à l'égard de Jésus, à l'égard de l'Esprit-Saint, à l'égard du Père. Je crois que s'il n'y a pas une expérience très intérieure, on est emporté. Le courant est tellement fort. On sent très bien ça, c'est la lutte propre dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On sent qu'il y a une exigence. On ne peut plus rester tiède. Pas possible. Et on ne peut plus rester ce qu'on appelait il y a un certain temps des chrétiens pratiquants. C'est balayé, ça. Parce que la lutte est trop forte. Et puis les est un air vicié. Vous voyez, on parle beaucoup de la pollution de la Méditerranée, puisque, je ne sais plus, selon les calculs, dans quelques années, plus de poissons dans la Méditerranée. Hein. Trop pollué. Beaucoup trop. On parle de la pollution dans les grandes villes, à Tokyo. Il faut de temps en temps mettre dessous pour respirer, ça se vend l'oxygène. Parce que justement, l'air est pollué. Il y a une pollution du climat intellectuel. Il y a une pollution du climat spirituel qui est beaucoup plus grave que toutes les autres pollutions et qui existe. Nous respirons intellectuellement parlant un air vicié. Depuis 140 ans, sept grandes formes d'athéisme, pour ne pas dire huit, ont pris naissance. Sept idéologies athées. Et ces sept idéologies athées existent. Elles font partie de ce qu'on peut appeler la culture. Nous ne sommes plus en terre chrétienne. Ce n'est plus une culture chrétienne, c'est bien évident. Il y a des petits îlots. Vous voyez, ici on enveloppe Saint-Jodard d'une grande cloche pour que l'atmosphère ne soit pas viciée. Vous voyez bien qu'on ne peut pas faire ça. Hein. Et donc, même ici, ça ne peut pas être autrement. Quand un novice entre, et il entre avec tout ce qu'il a. On va pas le couper en deux. Bien, la partie pure, la partie impure, rejetée dans le monde. Non, on entre avec tout ce qu'on est. Et il y a des remontées, mais d'une force étonnante de tout ce qu'on a respiré. Pendant un certain temps, tout semble paisible, et puis tout d'un coup, vous avez les tempêtes de lac. On vit ça, et je dirais dans un cloître ou dans une communauté comme ici, au noviciat, où il y a une certaine ferveur, parce que le noviciat implique cela pour toute sa vie, du reste. Hein. Forcément, il y a ces lendemains, les lendemains du noviciat, oui. C'est que pendant qu'on était novice, l'Esprit Saint était là et nous donnait un oxygène pur, merveilleux. Et puis tout d'un coup, ça reprend. On dit, mais d'où ça vient ? C'est tout simplement parce qu'on est de ce monde. Et notre monde est profondément vicié. Toutes ces formes d'athéisme, elles sont présentes. Et nous les avons respirées. Ça, c'est sûr, on ne peut pas être autrement. On respire respire le freudisme, on respire le positivisme, on respire le nietzschéisme, on est tous un peu nietzschiens, tous. On respire l'évolutionnisme pris dans son absolu, en disant Dieu ne peut pas exister puisque la vie implique l'évolution, et Dieu ne peut pas évoluer s'il est Dieu. Or, tout évolue, donc Dieu n'existe pas. C'est le raisonnement du petit Huxley, pas le grand, mais le petit. Il a écrit une fois ça un article véhément, mais farouche. Au nom d'évolution, on chasse Dieu. Il n'y a plus de place pour Dieu dans l'intelligence humaine. C'est ça qui est impressionnant. Il n'y a plus de place pour Dieu dans l'intelligence humaine. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre ce phénomène qui est nouveau. Ça n'a jamais existé dans notre Occident. Et tout ça sort de l'Europe. Saint Jean dit, en prophète, les antichrists viennent de Chine. Ces 8 formes d'athéisme naissent de l'Europe. De l'Europe qui a été chrétienne. Et ces athéismes naissent d'une pensée qui a été chrétienne. Notre culture, elle a comme grand-père des théologiens. On ne peut pas nier les cathédrales, les églises romanes, l'art chrétien. On ne peut pas nier, ça existe. Ce sont des témoins d'une culture chrétienne. Et la pensée actuelle, même si elle est en 7 contrats, parce que quand on est anti, on touche encore l'autre, et donc on est un tout petit peu modifié. C'est pas les anti qui sont les moins touchés. Il faut dépasser pour être moins touché. La culture moderne est anti-théologique. Ça, c'est sûr. Puisqu'on arrive à dire pas de discours sur Dieu. On ne peut plus. On ne peut plus parler de Dieu. On ne peut plus dire que Dieu existe, ça n'a pas de sens. Dieu est, ça n'a pas de sens. Parce que notre langage est un langage qui reste positiviste, conditionné par notre logique. Et donc, on ne peut plus parler de Dieu. On voit bien ça, il faut le saisir, du reste, il faut le sentir. Parce que c'est la seule manière de pouvoir sortir de tout cela. Il reste quelques minutes. Mais c'est bien, parce que ça fait partie de la réflexion. Et le soir, c'est difficile, hein. J'avais hésité de faire Épictète avec vous. Ce soir, mais j'aime mieux le faire demain matin, parce que l'esclave devenu philosophe, c'est très intéressant. Dans notre monde d'aujourd'hui, vous voyez, un esclave devenu philosophe, c'est bien. Alors, écoutez bien, je vais dire quelques mots seulement. Hein. Ce matin, j'ai essayé de vous donner cette vue aérienne. On n'a pas terminé, on continuera demain. Cette vue aérienne sur le développement de la philosophie occidentale, et c'est pour ça que je vous ai amené ce livre, qui nous montre aussi, qui ponctue depuis Hésiode jusque l'été Sartre. Parce que Sartre, philosophe de la liberté. On verra comment. Ça, on ne peut pas nier. Sartre, philosophe de la liberté. Pour lui, l'homme, s'il est homme, c'est la liberté. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté pour Sartre, hein ? Ça, c'est autre chose. On voit bien la période. Hésiode, oui, c'est le premier philosophe. C'est un poète. C'est un poète. Faut beaucoup aimer Hésiode. Faut le lire de temps en temps. Faut le lire de temps en temps. Il y a dans Hésiode des choses étonnantes. Hésiode, il a deux grands livres. Oui, c'est le premier de la philosophie grecque. Je ne l'ai pas nommé ce matin, mais le soir, on a une vision vespertinale qui regarde ceux qui sont enterrés. Alors, Hésiode, il y a deux grands livres. Une théogonie. Et puis, un livre sur les travaux. Et les jours. Hésiode, c'est un poète, c'est le Thibon de l'époque. Oui, paysan de pied sur terre, et philosophe, poète. C'est pas un philosophe du tout classique. Il a écrit la théogonie, c'est, voyez, la genèse des dieux, l'Olympe, mettre un peu d'or dans l'Olympe. Il y a tellement de dieux. Alors mettons un peu d'ordre. Et c'est le premier théologien qui désire mettre de l'ordre. De l'ordre chez les dieux. C'est très extraordinaire à la théogonie. Pour ceux qui sont freudiens, qui aiment Freud, lisez Hésiode. Vous verrez la manière dont Hésiode voit le tragique du cœur de l'homme. En le projetant chez les dieux. La première guerre qui existe chez les dieux. Vous comprenez bien, c'est la projection de la première guerre dans le cœur de l'homme. La première division dans le cœur de l'homme. C'est écrit avec un réalisme extraordinaire. Quand on parle des dieux, on peut être réaliste. Alors vous connaissez, c'est un réalisme extraordinaire parce que l'Olympe, L'ordre chez les dieux. Et les travaux et les jours, c'est l'ordre dans la famille. C'est curieux. Hein? La philosophie commence par une théologie et une philosophie de la famille. Le travail, c'est la première philosophie du travail. Et après, il faut attendre longtemps Marx avant de trouver une philosophie de la famille, du travail. Pas de la famille, mais du travail. La praxis. C'est curieux, hein? C'est très très curieux ça. Moi ça m'intéresse beaucoup de voir ça. L'ordre chez les dieux, donc une théologie qui regarde l'ordre, qui regarde les processions en Dieu. Chez Hésiode, il y a une trinité. Il y a les trois premiers. Les trois premiers. Ils sont la terre, la Bible et l'amour. Voilà les trois premiers. Voilà la trinité des hommes. De la terre née, de la Bible née, de la Bible, l'amour, rien. Très curieux. Pas de procession de la Bible, de Dieu, de l'amour. Et toute cette vision très étonnante, on ne parle pas de la liberté, mais on parle de la femme. Alors ça, c'est très étonnant de voir la manière dont Hésiode parle de la femme. Je ne le dis pas ce soir, parce que vous ferez des rêves. Mais il fait des recommandations. Quand tu te maries, et le vieux paysan, hein, vieux paysan, quand tu te maries, oh, fais attention. N'introduis pas le frelon dans la ruche. Oui. Ça, le paysan. Quand tu te maries, il faut avoir deux vœux et une femme solide. C'est la recommandation. C'est pour que un peu d'efficacité. Donc, voyons, on voit très bien que la famille est vue du côté de l'efficacité. Alors, si je prends des iodes à Socrate, c'est Épictète. le philosophe, donc l'esclave devenu philosophe, qui est le premier philosophe de la liberté. C'est pour ça que c'est très intéressant de mettre en parallèle Épictète et Sartre. Mais un petit mémoire fait par une étudiante de Fribourg, la liberté dans la philosophie d'Épictète et de Jean-Paul Sartre. C'est très intéressant. J'avais poussé une étudiante intelligente qui voulait faire ça. La liberté chez Épictète, la liberté chez Sartre. C'est les deux grands philosophes de la liberté. Ça, on verra Épictète demain. Mais vous voyez, l'un, la liberté dans l'aspect religieux, l'autre, la liberté hors religieuse, athée. C'est très très curieux et c'est très intéressant. Après, si j'avais plusieurs exemplaires, je vous le laisserai parce que ça vaut la peine. C'est facile à lire, c'est pas difficile. C'est très intéressant parce que ça montre bien ces deux grands aspects philosophes de la liberté, Épictète et Sartre. Alors, maintenant, puisque j'ai dit le soir, nous regardons un peu l'aspect de la révélation. Donc, je regarde la révélation au niveau de la foi. Ici, je suis au plan philosophique pur. Je ne fais pas d'opposition. Je distingue. En moi, il y a le croyant et il y a le philosophe. Je peux changer de vitesse. Je peux changer de vitesse. Si je suis conscient d'être les deux. Ah, si je ne suis pas conscient d'être les deux, alors évidemment, c'est très difficile. Mais je crois que c'est un progrès d'être conscient, d'être artiste, philosophe, croyant. Il ne faut pas tout mêler. Vous voyez, ça fait de la mayonnaise. Il ne faut pas tout mêler. C'est très bien pour assaisonner, mais ce n'est pas substantiel. C'est sûr, quoi. Il ne faut pas mêler les trois. Ce sont trois niveaux différents. L'artiste, le philosophe et le croyant. Et le croyant peut être un mystique. Et même un croyant doit être un mystique. Le vrai croyant est toujours un mystique. Pas des choses extraordinaires, mais il est mystique parce qu'il vit de l'invisible. Quand je regarde la révélation, la Bible, qu'est-ce qui est très frappant? C'est que, de fait, quand vous regardez la Genèse, faites pas un parallèle, hein, tout de suite. Mettez bien une barrière entre les deux. La Genèse, premier livre. Qu'est-ce qu'on voit? L'homme créé à l'image de Dieu. L'imago Dei. Ça, c'est la grande vision de l'homme. Et qu'est-ce qu'on dit? Dans cette vision de l'homme créé à l'image de Dieu. Cette grande vision que nous donne la révélation. L'image de Dieu a trois dimensions. Le dominium, l'intelligence et l'amour. Les pères de l'Église diront, à la suite de saint Augustin, mémoire, intelligence et amour. Mais en réalité, si je regarde bien l'Écriture, qu'est-ce qui donnait à l'homme le pouvoir de dominer l'univers? C'est le premier pouvoir par où l'homme se distingue de l'animal. L'animal peut manger des fruits, l'animal peut manger des légumes, mais l'animal ne domine pas l'univers. Il ne crée rien. Oui, le créateur veut que son image soit aussi créateur. Première ressemblance avec Dieu. Dieu n'a pas voulu créer un univers parfait. Il a voulu que ce soit l'homme qui l'achève. Ça fait partie de ses délicatesses de Dieu. C'est un père, ça. Si Dieu voulait dominer, il aurait fait l'univers parfait. Et l'homme n'aurait qu'à vivre de la cueillette. Or, l'homme ne vit pas que de la cueillette. Il domine l'univers par le travail. Donc, j'efface mémoire, j'ai dit dominium, c'est-à-dire la capacité de dominer, la capacité de transformer l'univers par le travail. C'est vrai. Une des dimensions essentielles de l'homme, c'est le travail. Un homme qui ne travaille pas, qui n'a jamais travaillé, il lui manque quelque chose. Il y a le travail, il y a l'intelligence. L'homme doit nommer toute chose. Il donne un nom aux animaux. Et l'homme est capable d'aimer. Et pour que l'homme aime parfaitement, Dieu a voulu qu'il y ait l'homme et la femme. Vous voyez, le couple, c'est au niveau de l'amour. C'est pas au niveau du dominium. Pas du tout. C'est une des conséquences du péché, c'est que l'homme regarde sa femme comme sa propriété et veut dominer sur elle. C'est pas du tout la vision de Dieu. Ça, c'est la conséquence du péché. C'est parce que c'est plus facile de dominer que d'aimer. C'est très difficile d'aimer. Dominer, j'allais dire, tous. Hein. Regardez le gosse comme il domine. Quand il joue, il domine. Quand il joue au domino, quand il joue au domino, maintenant ça se fait moins. N'est-ce pas ? Maintenant c'est plus avec des petits jouets beaucoup plus perfectionnés. Petites autos, des chars, des merveilleux. Il domine. Il aime ça. C'est extraordinaire de voir combien on aime de dominer. Exercer l'autorité pour que cette autorité devienne un pouvoir. Et si on ne fait pas grande attention, l'autorité deviendra un pouvoir. Vous voyez la distinction entre autorité et pouvoir. À l'intérieur du dominium. Pas la même chose. Donc, dominium, intelligence et amour. Le péché, qu'est-ce qu'il fait ? Il supprime l'amour. Ne touche pas à l'intelligence, mais alors l'intelligence est au service du dominium. Et c'est ça l'orgueil. C'est quand l'intelligence est plus au service de l'amour, mais au service du dominium. Et ça, c'est l'orgueil. L'homme veut dominer, même son semblable. Le mari veut dominer son épouse. Alors que l'amour implique le respect de l'autre, en premier lieu. Quand on aime, on ne veut pas du tout dominer. On aime de s'effacer. Quand on aime, on veut que l'amour soit parfaitement libre. Et donc, on ne veut surtout pas dominer. C'est très curieux. Et c'est ça qui est très important à noter. Donc, la Genèse nous montre l'image de Dieu. Elle ne nous parle pas de la liberté. On ne dit pas que l'image de Dieu demande d'être libre. Non, dominium, intelligence, amour. Tout se fait dans la liberté. Mais on n'en parle pas, on en vit. Quel sera le premier moment où, de fait, on verra la liberté apparaître ? C'est au moment de la tentation. Ce fameux passage. Ève, face au serpent. Un langage très symbolique. Un langage extraordinairement symbolique. Ève, face au serpent. Ève ne se tâte pas le pouls en disant « Je suis libre ». Pas du tout. Elle obéit. Et le serpent, le venin du serpent, Je dis, mais tu as mal compris la parole de Dieu. Oui, le serpent se fait herméneute, interprète, exégète, théologien. Premier théologien, c'est le serpent. Premier exégète, c'est le serpent. C'est vrai, c'est vrai. Il dit à Ève, mais tu n'as pas bien compris du tout, c'est pas ça du tout que veut dire Dieu. Oui, il va donner une interprétation, c'est très très curieux, de la parole de Dieu et des intentions de Dieu. Pour que Ève n'obéisse plus et prenne son indépendance. Alors, si je suis attentif, le mot liberté n'est pas. Le démon ne dit pas à Ève, mais sois libre. Et de l'autonomie, pas du tout. Il se sert de la parole de Dieu pour détourner Ève. La détourner de sa vraie finalité, de l'obéissance. Et que, soudainement, Ève se regarde. Le démon veut que Ève se regarde en comprenant que c'est vrai. La chose la plus grande, c'est de pouvoir connaître le bien et le mal. Oui, connaître le bien et le mal. Hein, c'est ça la première chose. On verra quel est le lien qu'il y a entre connaissance du bien et du mal et de la liberté. Je crois que c'est le premier moment où on voit apparaître la liberté. Et la liberté apparaît à partir de la tentation et à partir du péché.